Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Des pays les plus arides à ceux qui paraissent les plus arrosés, l'Europe au défi de l'eau. L'île de Chypre, au climat semi-aride, lutte depuis longtemps contre la pénurie d'eau. Et la situation s'est beaucoup aggravée depuis les années 80, en raison d'un fort développement économique qui a vu la population de l'île doubler, en raison également des effets du changement climatique, directement perceptibles. Les pluies se raréfient, les nappes phréatiques baissent et les épisodes de sécheresse se multiplient. Parmi les solutions, le recyclage de l'eau, une technologie en plein essor dont Chypre a été l'un des pionniers. C'est un reportage de Juliette Gerbrand.
Perché sur une colline caillouteuse à une trentaine de kilomètres de Nicosie, la petite ferme de Yakovos Platou domine un paysage de terre grise et ocre parsemé de rares bosquets. Au loin, la maison de l'éleveur. Devant nous, un pré de fourrage jauni. Il n'a pas plu depuis longtemps et il fait chaud dans les étables semi-ouvertes où se pressent une quarantaine de chèvres et une dizaine de vaches.
L'eau, c'est une inquiétude permanente pour moi. J'ai mes propres puits, bien sûr, mais ça ne suffit pas. J'ai besoin d'utiliser l'eau du village, elle coûte très cher. Ce n'est pas du tout rentable de s'en servir pour l'arrosage, par exemple. À Chypre, c'est simple, la météo est toujours contre nous. Cette année, tout est sec, il n'a pas beaucoup plu. L'eau des puits va durer un petit moment encore, mais il faudra que je complète avec l'eau du village, que je paye 1 euro le mètre cube, et il m'en faut beaucoup. Il faut bien que je donne à boire aux animaux.
Jusqu'en 1997, Chypre ne pouvait compter que sur l'eau de pluie et sur ses nappes phréatiques. L'année suivante, une première usine de désalinisation de l'eau de mer a vu le jour. Ce procédé fournit l'eau potable. Puis très vite, c'est sur le retraitement des eaux usées que l'île a concentré ses efforts. Le procédé fournit de l'eau d'irrigation de façon régulière et bon marché. Éleveur de vaches laitières près de Potamia, Pantelis Posidias l'a adopté il y a 3 ans.
C'est vraiment bienvenu pour le secteur agricole. Plus on a d'eau, mieux c'est. Il ne pleut pas assez, vous le voyez bien. Du coup, pour nous, agriculteurs, éleveurs, cette distribution d'eau recyclée, c'est une aide importante qui nous permet d'avoir du fourrage de bonne qualité et en quantité suffisante. En plus, c'est beaucoup moins cher. Tout est pris en charge par le gouvernement. On n'a pas besoin d'acheter de pompes. Le système d'irrigation au sol est aussi fourni, ainsi que les compteurs. Et le mètre cube ne coûte que 10 centimes d'euros.
C'est 10 fois moins cher que l'eau potable et c'est une ressource stable qui permet à Pantelis Posidias de rester serein. Il espère juste que son prix n'augmentera pas. À Chypre, 96% des eaux usées sont retraitées dans une dizaine d'usines. Celle de Vatiagonia se trouve à mi-chemin entre Nicosie et Larnaca. Ces bâtiments modernes sont bordés de lauriers rose et blanc.
C'est une idée de traitement de l'air et de l'eau. Et c'est ici où on enlève les odeurs de toute la station.
Angeliki Larkou-Yanakou est ingénieure au département de l'eau du ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de l'Environnement.
Ça, c'est l'aération avant et après, ça passe par la séparation, le filtrage. Ici, ils utilisent des membranes. C'est un système très avancé de filtrage. Ça nous donne de l'eau de meilleure qualité.
Sur le toit, des bassins d'eau saumâtre dans laquelle on envoie de l'air pulsé. Plus loin ensuite, cette eau coule à flot dans de grandes cuves. L'eau recyclée couvre à Chypre pour l'instant environ 20% des besoins d'irrigation et ces conditions d'utilisation sont strictement encadrées.
Ça commence par le type d'irrigation. C'est par drop au sol, par goutte. Ça, c'est pour faire des économies et l'eau ne pas être en contact avec l'arbre ou des choses comme ça. Ce qui se mange cru, on ne peut pas les irriguer. Et il y a quelques endroits où on les demande d'irriguer pendant la nuit pour ne pas avoir de personnes autour. On fait des marquages de tuyaux pour comprendre que c'est l'eau traitée. C'est pas de l'eau potable.
Le département de l'eau organise d'ailleurs régulièrement des sessions d'information pour les agriculteurs.
Au début, il n'y avait pas beaucoup de volontaires, mais après, quand ils ont vu les avantages et que c'est une source constante, tout le monde le veut et on est arrivé au point de ne pas avoir assez pour tout le monde. On a quelques projets futurs et on espère dans 20 ans on aura 58 millions de lots traités à distribuer dans toute Chypre.
58 millions de mètres cubes contre 38 actuellement. Une bonne nouvelle, car près de la moitié du territoire de Chypre est menacé de désertification à moyen terme. Et l'agriculture ne suscite guère de vocation. Elle représente d'ailleurs une toute petite part de l'économie de l'île, mais elle reste essentielle, explique la directrice du service de l'irrigation, Agati Hadjipanteli.
En tant qu'île, nous devons préserver l'agriculture, nous devons produire notre alimentation de base. C'est une garantie de survie. Mais il faut aussi garder la vie agricole active pour que les habitants restent dans les zones rurales, pour entretenir une certaine culture et prendre soin de la nature.
Mais la rareté de l'eau concerne l'ensemble de la population, bien sûr. Et avoir davantage d'eau, ça ne suffit pas, souligne Agati. Il faut également l'utiliser à bon escient.
Nous faisons aussi beaucoup pour convaincre les professionnels de prendre soin de l'eau, de l'utiliser intelligemment, y compris avec les bons outils technologiques. Quant à l'eau potable, j'espère bien que les gens sont attentifs à leur consommation. La tarification est aussi un outil important. Si on utilise trop d'eau, on paye plus cher. Enfin, il y a les campagnes dans les écoles. Bref, on parle beaucoup de la rareté de l'eau et de sa valeur, y compris pour l'environnement de l'île.
Dans un pays qui accueille 4 millions de touristes par an pour moins d'un million d'habitants, développer un usage raisonné de l'eau est un défi difficile à relever, mais qui sera essentiel pour l'avenir.
La Belgique, elle ne manque pas d'eau, mais cette eau est mal répartie sur le territoire. Elle est souvent gâchée, polluée et la demande en eau grandit d'année en année au fur et à mesure que la population se densifie dans ce petit pays du nord de l'Europe. C'est l'un des pays au monde le plus concerné par le stress hydrique. Les explications de Johanna Hochstein à Bruxelles.
En 2019, le World Resource Institute, une organisation américaine spécialisée dans les questions environnementales, plaçait la Belgique à la 23e place mondiale des pays les plus exposés au risque de stress hydrique, devant la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Le nord du pays est bien plus concerné que le sud. La Flandre est plus urbanisée que la Wallonie, plus densément peuplée. Les sols y sont plus sableux, avec une capacité de rétention d'eau relativement faible. La Flandre, avec le port d'Anvers, est le berceau du plus important pôle pétrochimique d'Europe, un secteur très gourmand en eau. Or, l'aménagement du territoire dans le nord du pays est tel qu'il y a moins de réserves stratégiques en eau qu'aux Pays-Bas voisins, par exemple. La Flandre importe donc une grande partie de son eau de la Wallonie. Le changement climatique, qui touche l'ensemble du territoire belge, n'a rien arrangé. Les hivers sont moins humides, même si cette année fait figure d'exception. Les étés plus secs depuis 2016, à tel point que les spécialistes parlent de sécheresse structurelle. À la fin de l'année dernière, les autorités flamandes ont donc lancé le Blue Deal, à l'image du Green Deal européen, un plan en 70 actions sur 10 ans qui vise à lutter contre la sécheresse. Une sécheresse qui a déjà des conséquences en Belgique. L'été dernier, les Belges ont été priés de ne pas remplir leurs piscines et d'éviter d'arroser leurs jardins à certaines périodes. Pire, certaines voies navigables n'étaient plus praticables à cause du manque d'eau, avec de sérieuses conséquences économiques. En Flandre notamment, un emploi sur 6 dépend de la disponibilité en eau.
People who live around the area, like in Albania, the Vjosa is completely normal, but it's not. I think the Vjosa is the last wild and big river in whole Europe.
L'eau, c'est aussi aujourd'hui la clé pour une énergie propre grâce aux barrages, ce qui aiguise les appétits dans les Balkans, une région qui abrite les dernières rivières sauvages du continent. Mais pour combien de temps encore? Les écologistes s'inquiètent de ces quelques 3000 projets de centrales hydroélectriques qui pourraient être construites dans la région. Des projets qui n'épargnent pas la Vjosa, considérée comme le dernier fleuve sauvage d'Europe. Louis Seyé.
Vjosa Parc National, c'est le slogan des ONG Riverwatch et Eco-Albania. Ces associations écologistes se battent depuis des années pour préserver ce fleuve impétueux qui prend sa source en Grèce avant de traverser le sud de l'Albanie. Encore épargnée par les barrages, la Vjosa coule jusqu'à la mer Adriatique, sans obstacle ni contrainte majeure, sur plus de 270 km. Un cas unique en Europe centrale qui fait de lui le dernier fleuve sauvage du continent européen, Russie mise à part. Depuis des années, les scientifiques enchaînent les expéditions pour étudier la dynamique de la Vjosa. Ce fleuve méditerranéen pourrait servir de modèle afin de restaurer ailleurs les cours d'eau abîmés par l'industrialisation et l'urbanisation. Mais les eaux indomptées de la Vioxa n'attirent pas que les biologistes. Pour les investisseurs aussi, le débit des rivières sauvages balkaniques est un trésor, synonyme de rapides bénéfices. Les ONG recensent ainsi près de 3000 projets de centrales hydroélectriques dans le sud-est de l'Europe. Une trentaine de ces projets de barrages menacent ainsi la Vioxa et la plupart de ses affluents. Alors que l'Albanie dépend déjà à 95% de l'hydroélectricité, les écologistes et les scientifiques ont appelé les autorités locales à protéger l'ensemble de la vallée de la Vioxa en la déclarant parc national. Un fleuve parc national, ce serait une première en Europe.
Face à la corruption en Bulgarie, la pression internationale s'accroît sur Sofia et en parallèle, la colère monte parmi la population. Le procureur général, une figure du système jusqu'ici intouchable, incarne pour certains Bulgares les abus d'un État mafieux. Et pour l'empêcher de se rendre au travail, un groupe d'irréductibles manifestants a organisé un sit-in permanent devant le palais de justice de Sofia. Damien Vedenicharov.
9h, palais de justice de Sofia. Plusieurs petits groupes de manifestants se dispersent pour couvrir les quatre entrées et sorties du bâtiment. Ils déplient des panneaux et brandissent des pancartes. « Boets contre la mafia », peut-on y lire. « Boets », ce qui signifie « guerrier » en bulgare, est le nom d'une ONG qui lutte contre la corruption. Les militants ne sont pas nombreux, mais ils sont bien organisés. Cela fait 2 ans qu'ils contestent la nomination du procureur général actuel, Ivan Gechev. Le président de l'ONG, Georgi Georgiev, ne manque pas de le rappeler au mégaphone. Son sit-in, avec des tentes éparpillées ça et là sur le trottoir devant le palais de justice, attire des personnes qui ont pour la plupart participé aux grandes manifestations anti-gouvernementales de l'an dernier.
Aujourd'hui, la première chose à faire, c'est d'obtenir la démission de Gechev. Démission ! Démission !
Mais les mouvements de protestation ne se limitent pas au sit-in. Ils s'étendent à d'autres institutions publiques, comme le Conseil judiciaire suprême, organe chargé de la désignation des procureurs, des juges et des juges d'instruction. Là encore, on entend le même refrain. D'après Georgi Georgiev, c'est parce que le parquet lui-même est devenu un instrument de répression et de corruption.
Boets a alerté le parquet des dizaines de fois pour des cas de corruption dans la haute fonction publique. Personne n'y a prêté aucune attention. Bien au contraire, le parquet est devenu le gardien des intérêts de la mafia. C'est une matraque pour rappeler à l'ordre ceux qui dérangent. C'est donc naturel d'appeler à la démission du procureur général, mais aussi de ce conseil suprême qu'il a nommé. Il est aussi responsable de cette nomination.
Face à la corruption qui gangrène la Bulgarie, la réaction s'organise aussi au niveau international, comme l'explique Georgi Georgiev.
Il y a quelques jours à peine, le gouvernement américain a imposé des sanctions économiques à plusieurs ressortissants bulgares, des oligarques, des politiques, des hauts fonctionnaires. Ce sont des vecteurs de corruption extrêmement puissants. Et c'est là la preuve la plus frappante que le parquet n'existe pas vraiment dans notre pays. Sinon, on en serait jamais arrivé à compter sur l'aide extérieure pour montrer ce qui ne va pas dans ce pays.
Bruxelles aussi fait entendre sa voix. C'est précisément en Bulgarie que Laura Kövesi, procureur général européen fraîchement désigné, a choisi de mener sa première visite officielle. Des photos de Kövesi avec des slogans qu'il appelle à la rescousse sont affichées par les manifestants. Il y a même des t-shirts à son effigie. La militante Maria Mateva en porte un, fait maison, avec une photo stylisée de Laura Kövesi. Kövesi et sa politique anticorruption en Roumanie sont devenus des symboles. Elle a tenu bon, sans vaciller face aux pressions. Voilà pourquoi, pour Maria, Laura Kövesi est un exemple à suivre.
On devrait s'inspirer de son exemple. La Roumanie se trouvait dans la même situation que la Bulgarie. Mais Kövesi a su jeter en prison des personnes très influentes qui méritaient d'être enfermées. C'était très impressionnant aussi de la voir faire face aux attaques et aux tentatives de sabotage pendant sa candidature au Parquet européen. Elle avait été placée sous contrôle judiciaire, elle ne pouvait plus quitter la Roumanie. Et elle a su surmonter toutes ses difficultés pour devenir procureure générale européenne.
Pour le moment, Laura Kövesi ne s'est pas immiscée dans les affaires politico-économiques bulgares. Sa visite à Sofia a été principalement de nommer les procureurs bulgares qui feront partie du parquet européen.
Notre chronique en un mot nous emmène aujourd'hui aux Pays-Bas à la rencontre de Hans Pullen. un verbe dans l'air du temps qui a fait récemment son apparition dans le langage courant. Il consiste, ce verbe, à faire le vide chez soi pour s'alléger de ce qui n'est pas nécessaire. C'est un mot du néerlandais contemporain que deux enseignants de La Haye partagent avec notre correspondante Anne Lorey.
C'est un mot tout jeune, 8 ans à peine, un mot enfanté par la société de consommation et par le trop-plein qui en découle. Ontspullen veut dire désencombrer son intérieur, c'est-à-dire jeter, donner ou vendre ses objets inutiles pour se débarrasser du superflu. Pour vivre heureux, vivons léger, un concept que l'on doit à Marie Kondo, la star japonaise du rangement. Rudy Sren est enseignant, linguiste et cofondateur de l'Institut Direct Deutsch à La Haye. Il nous confirme que Ontspullen est un mot apparu récemment. Très attentif aux évolutions de sa langue natale, il précise qu'inventer des mots est un hobby national aux Pays-Bas.
Ontspullen est un mot nouveau. Il est apparu en 2013 environ et a été utilisé pour la première fois par le Télégraphe, le quotidien national. Il est ensuite entré dans les dictionnaires en 2016, donc 3 ans plus tard. Les Néerlandais adorent les néologismes. Tous les jours, de nouveaux mots sont inventés et découverts. On peut les trouver dans les journaux et quand ils sont utilisés souvent, ils peuvent parfois entrer dans le dictionnaire.
Ruth Isren sort de ses étagères quelques-uns des nombreux recueils de néologismes publiés chaque année aux Pays-Bas. Voilà qui prouve concrètement la passion des Néerlandais pour la création lexicale. Et pour nous montrer à quel point sa langue est vivante, pour illustrer la théorie par l'exemple, il invente sur le champ un nouveau mot.
Par exemple, j'ai beaucoup de livres chez moi. Je croule sous les livres. J'ai des milliers et des milliers de livres. Et je vis dans un petit appartement. Ma femme me dit souvent, débarrasse-toi de tous ces livres. Je pourrais donc fabriquer un nouveau mot, Ontbukken. De la même façon que Ontspullen veut dire se débarrasser de ses affaires, Ontbukken veut dire se débarrasser de ses livres. Donc c'est ce que je devrais faire, mais je ne peux pas, car je suis bien trop attaché à mes livres.
Il mentionne alors un autre néologisme apparu au début du XXIe siècle et émanant lui aussi de la société de consommation. Le mot « consumideren » qui signifie « consommer moins » et donc « acheter moins ».
Nous vivons tous dans une société européenne et nos maisons sont pleines de choses, tellement de choses qu'on en devient fou. Il y a une nouvelle philosophie qui dit que nous ne devrions pas avoir autant d'objets autour de nous et que nous devons faire le tri parmi toutes ces choses pour aller vers un mode de vie plus minimaliste, garder seulement les choses essentielles pour mieux se concentrer sur le sens de la vie. Donc il y a cette idée qu'on devrait tous se désencombrer.
Nous quittons Ruth Isren, qui enseigne le néerlandais aux étrangers, pour aller retrouver Sylvain Lelarge, qui lui enseigne le français au néerlandais. Il réfléchissait il y a peu avec l'une de ses élèves hollandaises à la meilleure façon de Ontspullen, une pratique à laquelle l'auteur anglais James Vallman a dédié un ouvrage en 2017 sous-titré « Vivre plus avec moins ». Et si l'on transpose ce titre pour l'adapter à la philosophie de Sylvain Lelarge, cela donne « Mourir mieux avec moins ».
Ontspullen ? En fait, ça veut dire « honte, enlever, spullen, affaire ». Nous avons tous beaucoup trop de choses. Et lorsque nous mourons, nous laissons aux gens qui héritent de nos affaires un grand bordel, une grande pagaille. Et ce n'est pas très poli, en fait. Donc, pour « honte, spullen », on se débarrasse d'abord de toutes les choses qui sont inutiles. Et on les donne à Emmaüs, par exemple. Ensuite, on commence systématiquement à faire des cadeaux de notre vivant aux gens qui auront du plaisir à utiliser nos affaires. Et en troisième phase, on fait une liste de qu'est-ce qui va se passer avec les choses qui resteront après nous. À qui peut-on les donner ? Et on meurt d'une façon nette, propre, en laissant le moins de travail possible au suivant. Et bien sûr, en faisant tout ça, eh bien, il faut éviter de racheter des choses inutiles. C'est une sorte de méditation de la mort, de bienvenue à la mort.
Est-ce qu'on peut Ontspullen sans penser aux gens qui nous succéderont Ontspullen au quotidien ?
Ah ben bien sûr, c'est une hygiène de vie, parce qu'il faut voir que moins on a d'affaires, plus on a d'espace, et donc plus de liberté.
Une chronique en un mot signée Anne Lorey. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, une émission avec le financement du programme IMCAP de l'Union européenne. Vous retrouvez le podcast d'Accent d'Europe sur RFI.fr ou sur votre plateforme préférée. À bientôt.